L'actualité des Alpes du Sud et la majorité Alpine qui fait pression auprès des cheminots.
Elle les exhorte à faire marche arrière alors qu'une grève est annoncée sur la ligne des Alpes pour les vacances de février.
L'apprentissage n'est pas une voie de garage.
Bien au contraire, ils sont de plus en plus à faire le choix de cette voie. 50% de plus dans les Hautes-Alpes et 40% d'entre eux, à la fin de leur formation, deviendront leur propre patron. Des métiers qui ont besoin de voir leur blason redoré, c'est la semaine de l'apprentissage.
Le projet d'un centre médico-social pour personnes électro-hypersensibles relancé à Saint-Julien-en-Beauchesne.
Ils sont 3 500 000 en France à souffrir des ondes électromagnétiques. Parmi eux, le basalpin Philippe Tribaudeau. Il mise sur le site de Durbon sur la commune, mais la municipalité s'y oppose toujours. Non, nous ne bloquerons pas le développement de la couverture numérique, promet le basalpin.
Le plan d'eau du Champsaur et la base de loisirs de Chabot qui font peau neuve.
Et la population est amenée à se prononcer sur ces projets d'aménagement lors de réunions publiques aujourd'hui et demain.
Et Simon Billy qui va défendre son globe de cristal.
À peine titré champion du monde de ski de vitesse, le haut alpin revient sur la piste de Chabrières-Avars. Côté météo, rassurez-vous, c'est le dernier jour de vent fort.
Oui, absolument. Côté ciel, quelques faibles précipitations qui s'estompent rapidement en matinée sur les Hautes-Alpes, vers l'Isère et la Savoie. Mais les nuages vont rester tenaces là-bas. Sur le reste des Hautes-Alpes, le soleil continue de se montrer généreux. Idem pour les Alpes de Haute-Provence. Les températures largement au-dessus des normales saisonnières. Entre 11 et 15 degrés sur les Hautes-Alpes, jusqu'à 17 sur les Alpes de Haute-Provence. Côté vent, des rafales encore, jusqu'à 70 km/h sur les Alpes et 85 km/h sur les Alpes de Haute-Provence. À la une de l'actualité, une nouvelle disparition d'un élu basalpin.
Après l'annonce du décès de l'ancien maire de Manosque, Bernard Jean-Mé Peralta, c'est Guy Derbez qui nous a quittés. L'ancien maire de Seyne-les-Alpes est mort à l'âge de 80 ans. À tout juste 30 ans, il avait été élu à la tête de la commune. Parmi ses actions les plus notables, c'est lui qui avait permis de sauvegarder la citadelle Vauban et d'en faire une propriété de Seyne-les-Alpes jusqu'en 1989. Il avait siégé au sein de la commune. Avant de céder sa place, la municipalité annonce un hommage public qui lui sera rendu.
L'annonce de la grève des cheminots en pleine vacances scolaires ne passe pas et certains élus demandent au syndicat de faire marche arrière.
Alors que se réunissait hier le conseil départemental des Hautes-Alpes lors d'une séance plénière, les élus de la majorité ont exhorté les organisations syndicales à renoncer à cette grève. Une grève, pour rappel, dès le 11 février pour s'opposer à la suppression de 16 postes sur la ligne des Alpes. Pour les élus alpins, il s'agit ni plus ni moins de bloquer le pays en plein pic de fréquentation touristique. Décision d'autant moins compréhensible que le département a investi 5 millions d'euros dans le réseau ferroviaire lors du dernier mandat et rappelle d'ailleurs que la région s'est engagée à maintenir l'ouverture 7 jours sur 7 des gares et des guichets. Du côté du maire de Gap, Roger Didier, même son de cloche. S'il est dit être en accord avec cette démarche de sauvegarder le service public, il regrette néanmoins la méthode. Il a aussi interpellé par courrier Joël Giraud, le secrétaire d'État en charge de la ruralité, pour réinstaurer les horaires précédents au sein de sa gare. En effet, les plages d'accueil sont aujourd'hui réduites. Toujours dans le volet syndical, elles sont plusieurs organisations à s'agacer contre la directrice d'académie dans les Hautes-Alpes. Le sujet de discorde, c'est le remplacement des professeurs absents. Avec la crise sanitaire, ils sont de plus en plus à ne pas pouvoir donner cours. Du coup, la direction académique des Hautes-Alpes ferait appel aux enseignants RASED qui interviennent auprès d'enfants et d'adolescents placés dans des réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté. Il s'agit d'élèves fragiles, en situation de handicap, en difficulté, en décrochage. Ils ont besoin de l'intervention et du soutien régulier de ces enseignants spécialisés, écrivent les organisations. Les syndicats demandent à la directrice d'académie de cesser ces sollicitations.
Une jeunesse qui choisit de plus en plus de sortir du cursus standard de l'éducation nationale pour se diriger vers l'artisanat.
Dans les Hautes-Alpes, on note une progression de plus de 50% du nombre d'apprentis entre 2020 et 2021. C'est ce que soulignait hier la préfète des Hautes-Alpes lors de sa visite au sein du CFA régional de Gap, Martine Clavel.
Les chiffres ont considérablement progressé en 2021, les chiffres de l'apprentissage. Nous sommes passés de 750 apprentis dans le département en 2020 à 1150. 50 en 2021. C'est une priorité gouvernementale et qui rejoint complètement la volonté des professionnels. professionnelle et qui a un impact très positif sur la demande d'emploi des jeunes, puisqu'on la voit diminuer là aussi d'année en année. Il y a des tas de filières qui fonctionnent par l'apprentissage et progressivement, à force de communication, à force d'expliquer, de parler, comme nous le faisons aujourd'hui au travers de cette semaine de l'apprentissage, de mettre en lumière, c'est une voie d'excellence. C'est pas une voie de garage, c'est tout le contraire. C'est une voie d'excellence. C'est ce qui permet d'avoir des compétences professionnelles qui sont parfaitement adaptées aux besoins de l'entreprise. Et derrière, c'est un emploi assuré. Donc vraiment, c'est une voie qu'il faut privilégier.
Des jeunes qui peuvent être des repreneurs de demain, des patrons dans l'avenir. C'est en tout cas comme cela que les voit Fabrice Zimmermann, le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Hautes-Alpes. Alexandra Bertoncini, directrice du CFA régional de Gap, avance un chiffre, 40%. Des apprentis qui sortent des formations deviennent leurs propres patrons. Des formations où les méthodes d'apprentissage ont évolué.
Ça fait partie un petit peu de l'évolution attendue par les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir des outils un peu plus digitaux. Nous, on y voit aussi un intérêt parce qu'au niveau de la simulation, ça permet aussi de les faire progresser à leur rythme. Ça leur permet aussi d'être dans un environnement un peu plus ludique, un peu plus jeu. Pour autant, les apprentissages sont là. Après, il y a quand même le format traditionnel qui demeurera. Mais en tout cas, c'est une façon aussi de raccrocher à leur génération. Et ça, c'est hyper important. On a accès nos investissements sur les 3 prochaines années sur des outils plutôt de simulation, d'innovation liés au domaine digital.
Des investissements qui s'élèvent à 800 000 euros sur 3 ans. Notez que jusqu'au 4 février, c'est la semaine de l'apprentissage dans l'artisanat, des professions qui sont mises en valeur avec des portes ouvertes, des rencontres ou encore des visites proposées grâce au CFA. Le campus Université Régionale des Métiers de l'Artisanat de Gap ouvrira ses portes aujourd'hui de 9h30 à 16h30 sur rendez-vous. Et vous pourrez en savoir plus sur les différentes formations qui sont proposées en apprentissage.
Ils sont 3,5 millions en France à souffrir d'électro-hypersensibilité.
Parmi eux, le basalpin Philippe Tribaudeau, cet ancien professeur de technologie, a subi les premiers symptômes il y a 14 ans. Philippe Tribaudeau vit aujourd'hui reclus sur un terrain du Sisteronnais. Il avance le principe de précaution, notamment l'importance du premier centre d'accueil médico-social en Europe pour les personnes électro-hypersensibles et chimico-sensibles, à Saint-Julien-en-Beauchesne, sur le site de Durbon. L'association Zone Blanche, créée en 2014 par l'eurodéputé Michel Rivasi, ambitionne d'y réhabiliter 17 habitations sur ce domaine appartenant à la cave des Bouches-du-Rhône. Si le projet a le soutien du bailleur social Solia Provence, la municipalité de Saint-Julien-en-Beauchesne s'y oppose toujours. Un non-sens pour Philippe Tribaudeau, alors que toutes les garanties seraient apportées pour que la couverture numérique ne soit pas perturbée.
C'est vrai qu'on est malheureusement tombé, il faut le dire, sur un maire qui fait une croisade, ce qui n'est plus rationnel. Parce qu'on a expliqué au maire de la commune de Saint-Julien-en-Beauchesne qu'il n'y aura aucun impact sur la population. La population aura l'ensemble des technologies qu'on peut avoir à Parisien, et la fibre optique qu'on se promet de faire amener le plus rapidement possible, et la 4 ou 5G, il n'y a pas de problème. Ce ne sont que des problèmes techniques qui peuvent être résolus assez facilement. Et on peut blanchir la zone de Durbon, qui n'est pas très sale, mais il y a encore 2-3 petites choses à régler. Le moins onéreux, c'est simplement de réorienter l'antenne de Montama et peut-être une autre, mais qui est beaucoup plus loin et qui apporte de la réflexion. Mais si réorienter les azimuts n'était pas suffisant, eh bien, il suffit de demander aux opérateurs de construire une antenne 100 ou 200 mètres plus bas. Elle couvrira l'ensemble de la population.
Mais n'impactera pas le site de Durbon.
Et voilà, c'est tout ce qu'on... Mais ça, un problème technique, l'homme sait faire.
Voilà, un entretien à retrouver dans son intégralité sur alpe1.com. Si une étude de l'ANSES de 2018 reconnaît l'électro-hypersensibilité, elle n'établit aucun lien de cause à effet entre les symptômes et les champs électromagnétiques.
Présidentielle, et sans surprise, Pascal Boyer parraine Emmanuel Macron.
Une annonce de la députée Alpine, qui n'en est pas vraiment une, encartée La République En Marche. Elle soutient donc tout naturellement le président de la République pour la campagne à venir, même s'il n'est toujours pas officiellement candidat. Un faux suspense qui va de pair avec les parrainages de la seconde députée Alpine, Claire Boucher, et celui des Alpes-de-Haute-Provence, Christophe Castaner. En effet, la première est la suppléante de Joël Giraud, secrétaire d'État à la ruralité. Le second est l'ancien ministre de l'Intérieur, actuel chef de La République En Marche au sein de l'Assemblée nationale. Alors le seul parrainage qui reste indécis parmi les députés, c'est celui de la base alpine, Delphine Magary, élue aux législatives en 2017 avec l'étiquette En Marche. Cette ancienne socialiste s'est éloignée du parti présidentiel à la mi-mandat pour rejoindre le collectif écologique. écologie, démocratie, solidarité.
Et direction le Champsaur, avec des endroits très prisés, des locaux et des touristes, hein, le plan d'eau et la base de loisirs de Chabot.
Deux lieux qui vont faire peau neuve, des projets d'aménagement sont en discussion et cela ne se passera pas sans la population. Deux réunions publiques sont organisées. La première, ce mercredi, à la salle des fêtes de Chabot à 20h, elle concernera la base de loisirs. La seconde, demain à 20h, à la salle des fêtes de Mans, au Forest Saint-Julien, et ce sera sur le plan d'eau du Champsaur. Depuis juin dernier, les deux entités ont lancé une mission de programmation au travers d'un bureau d'études commun, et c'est ce que souligne Fabrice Borel, président de la communauté de communes du Champsaur Val-Côte-de-Mar.
On a déjà eu une première tranche sur le plan d'eau pour le réaménagement du plan d'eau avec la réhabilitation du bâtiment. On a refait les sanitaires, on a refait des locaux pour nos prestataires et on souhaitait continuer le réaménagement. En parallèle, la commune de Chabot avait le souhait de réhabiliter sa base de loisirs donc à Chabot. Donc plutôt que de faire les études chacun dans son coin, on a choisi de prendre un prestataire commun pour essayer d'avoir une cohérence au niveau des équipements et des investissements qui allaient être faits. Donc c'est ce qui nous a pris à amener à avoir le même prestataire pour faire ces études. Concernant le plan d'eau, donc aujourd'hui il va y avoir deux réunions publiques pour écouter un petit peu les souhaits de tout le monde. Donc aujourd'hui on a fait un grand mix de tout ça et on a présenté trois scénarios. Donc on en a retenu un et on veut présenter ce scénario à la population pour que les gens puissent s'exprimer, voir ce qui va se passer, Mais aujourd'hui on n'a pas arrêté définitivement les scénarios. C'est pour présenter les scénarios et écouter la population, de la concertation.
Des propos recueillis par Aurore Valory. Sur le plan d'eau du Champsaur, l'investissement pourrait se monter à 2 800 000 euros. Cette année, des travaux dans le cadre du projet de la voie douce seront menés au printemps sur le lac de pêche avec des pontons qui seront créés. Sur la zone humide, la signalétique sera revue. Les aires de pique-nique seront également réhabilitées.
On vaccine toujours dans les Alpes de Haute-Provence.
Vaccinobus à Digne-les-Bains et Manosque. Des opérations spéciales sont organisées en faveur des habitants des quartiers prioritaires des deux principales villes basalpines. Un vaccinobus sera tout d'abord ce mercredi sur la cité-préfecture, place du Général de Gaulle de 9h à 12h30 et au quartier du Pigeonnier de 13h à 17h. Rendez-vous ensuite à Manosque où la vaccination sera possible de 13h à 18h au quartier des Alisiers. Première, deuxième ou troisième dose seront proposées aux personnes âgées de plus de 12 ans sans prise de rendez-vous. Ce sera Moderna pour les plus de 30 ans, Pfizer dès 12 ans. Notez également qu'on continue de vacciner au sein des deux centres qui se situent à la salle de l'Ermitage pour Digne-les-Bains, à l'OSCO, Manosque pour la cité Giono.
Alors que les vacances de février pourraient être perturbées hein, par la grève des cheminots, eh bien les tendances sont pour l'heure plutôt bonnes dans les Hautes-Alpes.
Le taux d'occupation des hébergements professionnels est de 73,5% sur la période, une hausse de 2,65% par rapport à 2019-2020.
Suivez les Jeux Olympiques d'hiver avec Alpe 1.
Et avec la renaissance de Terence.
Terence Chikhnavorian, depuis ce début de saison, le ski-crosseur du Sauze n'est plus le même sportif. Il semble même avoir atteint la plénitude de son potentiel. Après sa grave blessure lors des derniers Jeux Olympiques à Pyeongchang et une gêne récurrente au dos par la suite, le Basalpin enchaîne les bons résultats en Coupe du Monde. 4 podiums, dont sa première victoire en carrière à Val Thorens, ainsi qu'une deuxième place au classement général à égalité de points avec le Suisse Ryan Regliez et juste devant un autre tricolore Bastien Midol. Une forme olympique donc pour Terence Chikhnavorian, qui ne cache pas sa volonté d'aller chercher une médaille, d'autant plus qu'il est le seul représentant des Alpes d'Haute-Provence.
Ça fait énormément plaisir de représenter la vallée du Bail, de représenter la station du Sauze, mon club. Enfin voilà, j'y suis depuis toujours, j'ai fait toute ma scolarité à Barcelonnette au sport-études. Je ne veux pas dire que je suis heureux d'être le seul, parce que c'est pas vrai, j'aurais aimé être accompagné par d'autres athlètes. Mais voilà, je suis très heureux de représenter... De représenter le 04, le Sauze ainsi que la vallée du Bail jusqu'à Pékin. Alors oui, c'est vrai que l'objectif, déjà c'était d'être sélectionné aux Olympiques et par la suite c'est aussi de revenir avec une médaille. Mais c'est vrai que voilà, avec les résultats que j'ai fait puis qu'on a fait aussi avec Bastien Midol avec qui on partage le haut du classement général, on peut avoir de belles ambitions, on peut viser une médaille, on a les capacités. Maintenant, il va falloir que tout soit réuni le jour J pour que ça nous sourie.
Départ pour Pékin le 9 février. La grande journée pour Terence Chikhnavorian, ce sera le 18 février avec la qualification et les phases finales, 6 runs à réussir pour toucher du doigt le rêve olympique.
Et Simon Billy à nouveau sur le pont du côté de Vars.
À peine titré champion du monde de ski de vitesse dimanche, le Alpin retrouve déjà ce mercredi sa piste favorite de Chabrières pour démarrer la défense de son globe de cristal obtenu l'hiver dernier pour la première fois de sa carrière. Une seconde épreuve de Coupe du Monde est également au programme demain à Vars avant de s'envoler pour la Suède la semaine prochaine. Notez que la tenue de ces deux courses est soumise aux conditions météo. Un mot de hockey sur glace pour finir. Ligue Magnus, fin de la mauvaise série pour Briançon. Les Diables Rouges ont dominé hier soir 2-0 Mulhouse. Ils ne sont plus qu'à 4 points de l'avant-dernière place. Du côté des Rapaces de Gap, on ne s'est visiblement pas remis de la défaite en finale de Coupe du France. Défaite 6-3 contre Nice.
Vous êtes témoin d'un événement ? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.